Docteur José Alain Sahel, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bien, merci, et vous?
Je vous remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour nos auditeurs, vous me permettrez de faire un peu, de dresser votre portrait. Vous êtes un pionnier dans la recherche sur les rétines artificielles et les thérapies régénératrices de l'œil, et vous êtes reconnu par la communauté scientifique internationale pour votre expertise dans la restauration de la vision. Vous avez enseigné. Vous enseignez encore beaucoup et partout, en France, en Grande-Bretagne, en Israël, aux États-Unis. Vous êtes à la fois clinicien et chercheur. Et votre pedigree, si je peux dire, pourrait nous prendre toute l'émission. Alors, on va couper court et tout de suite, on va s'entretenir des avancées remarquables que vous et votre équipe avez été capables de créer, de réussir en optogénétique. Au courant de, je pense, aussi récemment que l'été dernier.
Oui,
Peut-être,
non.
oui.
Non, je vous écoute, je vous en prie.
Ben, simplement, peut-être, on va parler des maladies de la rétine, entre autres, de rétinite pigmentaire, et aussi dans ce sens-là, d'abord faire un lien entre la captation, la sensibilité à la lumière et la vision périphérique, car c'est là que tout a commencé.
Oui, alors dans la rétinopathie pigmentaire, qui est en fait un groupe de maladies génétiques complexes, diverses, avec de très nombreux gènes, plus de 70 gènes impliqués et des centaines de mutations différentes, les patients en général commencent par perdre leur vision de nuit, souvent d'ailleurs sans qu'ils se rendent compte que c'est anormal, ça peut être dans l'enfance ou dans l'adolescence, et ensuite progressivement la vision périphérique, y compris de jour, se rétrécit, et ils ont ce qu'on appelle une vision en tunnel, avec un champ de vision central qui peut être d'abord de 30, puis de 20, puis de 10 degrés, qui se rétrécit progressivement. Et éventuellement, au cours des années, ça peut aboutir à la perte de la vision centrale aussi. Mais ça commence par une perte de la vision périphérique. Ça correspond à la dégénérescence successive des cellules qui permettent de voir la nuit, qu'on appelle les photorécepteurs à bâtonnets, puis ensuite des cellules qui permettent de voir le jour et en vision centrale, et les couleurs, qui sont les photorécepteurs à cônes, lesquels sont plutôt au centre, mais aussi sur l'ensemble de la périphérie, pour le champ visuel périphérique. Donc ça, c'est ce qui touche l'ensemble des patients porteurs de rétinopathie pigmentaire avec des variations de mode de présentation de la maladie et sur une durée qui peut être de plusieurs dizaines d'années ou souvent en moyenne une quinzaine d'années. Dans un certain nombre de cas, mais encore trop rares, il est possible de corriger la mutation génétique par thérapie génique, et c'est quelque chose qui va continuer à se développer au cours des années. Mais il y a un certain nombre de situations où le gène n'est pas encore identifié, ou alors où les patients ne sont pas pris en charge à suffisamment tôt pour pouvoir espérer bloquer l'évolution de la maladie ou même protéger complètement contre la perte de vision. Et c'est là qu'il y a d'autres approches qui sont envisagées. Celle sur laquelle j'ai beaucoup travaillé depuis plus de 20 ans, c'est protéger la vision restante. Et donc là, on va commencer un essai clinique l'année prochaine. Mais pour les patients qui ont perdu encore plus de vision, c'est d'essayer de restaurer une partie de la vision perdue. Et c'est pour ça qu'on avait travaillé d'abord sur la rétine artificielle, ce que nous continuons à faire. Et puis plus récemment, ça fait quand même presque 15 ans, sur l'optogénétique. Où, au terme de beaucoup de travaux expérimentaux, nous avons pu commencer à observer chez l'homme cette année des bénéfices en termes de restauration d'une partie de vision.
Et l'optogénétique, le processus commence d'abord par une protéine tirée d'une algue.
Oui, c'est ça. Alors, ces protéines, elles ont été identifiées par des chercheurs qu'on appelle fondamentalistes, des chercheurs de sciences fondamentales allemands, il y a une trentaine d'années à peu près, chez des algues et des organismes très élémentaires, qui ont la particularité d'avoir une protéine à la surface de leur membrane qui à la fois détecte la lumière et déclenche un signal électrique qui va activer un cil, lequel va mobiliser l'algue ou l'organisme élémentaire vers ou en direction opposée à la lumière.
Donc,
Et
il
ces
s'agit
protéines,
d'une protéine qui réagit à la lumière et qui
voilà,
envoie des signaux à l'intérieur de la cellule
c'est
quand
ça,
un signal
exactement.
lumineux est détecté.
Voilà, exactement. Et donc ça, c'est ce que font aussi normalement les photorécepteurs chez les mammifères et chez l'homme, mais avec de très nombreuses protéines pour le faire, parce qu'on a aussi la capacité de s'adapter à différents niveaux de luminosité, parce qu'il y a une capacité aussi de changer rapidement d'environnement. Donc ces protéines ne font pas tout, mais elles font l'essentiel, puisqu'elles détectent la lumière et répondent à la lumière. D'où l'idée que nous avons eue, que d'autres ont eue aussi, mais que nous avons été les premiers à vraiment mettre en œuvre de façon efficace chez l'homme, d'utiliser ces protéines pour les faire exprimées dans les cellules restantes dans la rétine, Pour transformer les cellules restantes dans la rétine en photorécepteurs élémentaires et donner la capacité à la rétine restante chez le patient de détecter la lumière et donc d'avoir une sensation lumineuse. Donc c'est ce qui a été fait, ce qui a impliqué donc une approche qu'on appelle de thérapie génique pour en fait faire coder pour la protéine, avoir le code génétique de cette protéine, le faire rentrer dans l'œil, puis dans les cellules qui vont former le nerf optique, qu'on appelle les cellules ganglionnaires, faire exprimer cette protéine. Mais comme il faut beaucoup de lumière et comme il faut aussi s'adapter à différents niveaux de luminosité, nous avons travaillé sur l'identification de protéines qui soient le moins requérantes de beaucoup d'intensité lumineuse, mais enfin, il en faut quand même pas mal, et puis surtout de trouver des méthodes d'adaptation au changement de luminosité, et donc mis au point avec GenSight, donc des caméras qui fonctionnent à tous les niveaux de lumière, pixel par pixel, avec donc des lunettes qui, à l'avant, ont une caméra et à l'arrière, ont un projecteur qui envoie dans l'œil, dans la longueur d'onde correspondant à ces protéines, une lumière qui va représenter le signal visuel. Donc c'est ça qu'on a mis en œuvre après énormément de travaux de tout type, mathématiques, informatiques, électroniques et aussi biologiques, et de sécurité, de chirurgie. Donc après tous ces travaux pendant pas mal d'années, pour commencer un essai clinique, et on a pu observer chez un premier patient, puis maintenant il y a d'autres patients qui sont en train de montrer la même chose maintenant, qu'on peut faire revenir un peu les patients en dépit de Covid, démontrer que le premier patient qui n'avait plus vu depuis une quinzaine d'années au moins, enfin, qui avait commencé à perdre la vision à l'adolescence et qui vers la quarantaine s'était retrouvé complètement aveugle, donc a pu retrouver une capacité de voir les passages protégés pour traverser avec donc les lunettes, détecter les objets sur la table, donc compter les objets, les attraper. Et puis on continue évidemment l'entraînement. Il y a d'autres patients, maintenant on a une autre patiente que j'ai présentée il n'y a pas très longtemps, l'American Academy, qui est capable de compter le nombre de stylos sur la table, qui est capable d'attraper un stylo. Donc évidemment ce n'est pas une vision normale, mais pour des gens qui ne voyaient pratiquement plus rien, à peine un tout petit peu de lumière, c'est déjà énorme.
On se rapproche d'une vision du moins fonctionnelle, quelque chose qui va permettre une certaine autonomie. Alors pour résumer, la recherche ou le processus commence par l'utilisation d'une protéine qui issue d'une algue assez primaire, et cette protéine-là réagit à la lumière d'une façon grossière, mais au moins suffisante pour, une fois injectée dans l'œil du patient, dans la rétine du patient, cette protéine-là peut s'accrocher aux cellules qui restent, qui sont encore susceptibles de la recevoir. Et ça demande tout de même des injections sur une certaine période de temps avant que l'expérience commence avec les lunettes.
Alors, il y a une seule injection, puisque, en fait, avec une seule injection, mais il faut attendre quelques mois pour que la protéine soit pleinement exprimée. Et après, il y a tout un entraînement, puisqu'en fait, le patient, dans ce type d'étude, est extrêmement actif. Le patient est tout sauf passif. Il faut que le patient s'entraîne. Et le patient, souvent, et les patients nous donnent des informations extrêmement précieuses sur le type de perception, sur les inadéquations aussi des systèmes que nous développons pour que nous puissions les adapter mieux et faire des progrès, mais grâce au patient.
D'accord. Parce que c'est sûr que cette nouvelle protéine primaire qui s'intègre au système de vision du patient, bien, il faut que toute la chaîne d'information apprenne à décoder ces signaux. Et avec les lunettes qui, elles, donnent une image monochrome, simpliste, si je peux dire, à l'œil du patient aveugle, il finit par être capable d'avoir une vision fonctionnelle. Comme vous dites, attraper un stylo ou compter combien il y en a sur la table, quand on part d'une vision nulle, c'est déjà beaucoup. Est-ce qu'une fois l'injection faite et les quelques mois d'attente passés, est-ce qu'il est nécessaire de réinjecter ou c'est fait pour toujours?
Alors, a priori, l'expérience que nous avons de la thérapie génique, c'est que les effets sont stables à 5 ans, voire à 10 ans. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de prévision de réinjection, mais ça reste possible.
D'accord. Et après ça, il s'agit évidemment de porter les lunettes qui sont en fait...
Quand les patients veulent utiliser, parce qu'ils peuvent aussi décider de se reposer et de ne pas avoir à faire tout ça.
Parce qu'évidemment, quand on parle de lunettes, on parle de quelque chose qui est comme un peu encombrant à ce stade-ci. Là, ça ressemble peut-être plus à un masque de plongée.
Un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'on essaye là, de les améliorer. Il y a plusieurs générations qui ont déjà été mises au point pour essayer de les rendre le moins pénibles à porter possible.
Mais il n'y a pas que la rétinite pigmentaire comme pathologie de l'œil qui pourrait éventuellement bénéficier de l'optogénétique. Il peut y avoir des applications.
Ça pourrait concerner des patients qui ont d'autres maladies à condition que leur nerf optique, que les cellules qui forment le nerf optique soient encore viables et fonctionnelles. Donc ça exclut par exemple les patients qui ont des stades très avancés de glaucome ou les patients qui ont eu un accident avec une section du nerf optique, mais ça, les patients qui ont encore une rétine pour laquelle le nerf optique est fonctionnel, donc ça représente pas mal de maladies de la rétine, effectivement, à terme, ça pourrait s'appliquer à eux aussi.
Donc on parle entre autres de dégénérescence maculaire peut-être.
Voilà, alors c'est le cas à condition qu'on atteigne une vision qui soit supérieure à la vision restante chez ces patients, puisque la dégénérescence maculaire liée à l'âge, les patients ont encore une vision périphérique, donc qui leur permet quand même de détecter un certain nombre d'éléments. Donc pour l'instant, nous allons voir le niveau de vision atteint en optimisant. Là aujourd'hui, on est en train d'augmenter les doses du vecteur pour avoir plus de protéines exprimées, et puis aussi en optimisant les lunettes et l'entraînement. En fonction de la vision atteinte, ça pourrait aussi concerner effectivement la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou d'autres maladies de la rétine.
Parce que, en fait, tout le principe, c'est de permettre aux cellules de l'œil qui sont encore capables de travailler, de pouvoir le faire. Donc, d'utiliser la vision très limitée qui reste ou les cellules qui sont encore viables.
C'est ça, même si elles ne sont pas fonctionnelles, c'est-à-dire que même si le patient ne voit rien, mais à partir du moment où il y a encore des cellules viables, ça laisse cette possibilité de réactiver ce qu'on avait appelé ça, par exemple, pour certaines cellules, les cellules dormantes, en fait, de réveiller ces cellules.
Entre aujourd'hui puis une application pratique, quelles sont les prochaines étapes de vos recherches?
Alors il y aura les différents affinements dont j'ai parlé sur les lunettes. Il y a un essai clinique donc qui est maintenant on a fait déjà 9 patients, maintenant il va y avoir une extension à un groupe de patients supplémentaires. Et après il y aura ce qu'on appelle une étude pivotale, c'est-à-dire une étude qui est une étude d'enregistrement pour démontrer sur un plus grand nombre de patients dans plus de sites hospitaliers dans le monde l'efficacité. Et ensuite, ça, si tout marche bien, ça devrait aboutir à l'enregistrement et à la mise à disposition du public de ce type de traitement. Donc je ne sais pas, l'échéance, c'est probablement entre 3 et 5 ans, plutôt 5 ans que 3 ans pour que ça soit sur le marché.
D'accord. Mais effectivement, le concept est maintenant démontré, maintenant prouvé, et il s'agit maintenant de l'élargir. Mais ça marche. Il y a des nouvelles qui sont sorties cet été où on voit effectivement votre sujet qui est complètement aveugle, qui est capable d'identifier ce qu'il y a sur la table devant lui, et ainsi de suite. Alors, vos recherches redonnent beaucoup d'espoir à des gens qui, je dois le dire comme moi, ont de la rétinite pigmentaire. Alors, on vous remercie beaucoup, Dr Sahel. Persévérance.
C'est notre but de rendre service et on est content que ça commence à marcher parce que c'est effectivement très prometteur.
Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps avec nous et on va suivre de très près l'avancement de vos recherches. Merci.
Avec plaisir, merci. Au revoir.